Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Genèse, au chapitre 3, du verset 6 au verset 13, je crois. C'est 13, voilà, chapitre 3, verset 6 à 13. Genèse 3, 6 à 13. Et notre thème, c'est nos péchés effacés. Nos péchés sont effacés. Voilà. Il faut se souvenir que si aujourd'hui nous faisons des cultes, nous faisons des prières, nous parlons de la parole de Dieu, tout tourne autour du problème du péché. C'est à cause de tout ça. S'il n'y avait pas eu le péché, on serait au paradis, on ferait autre chose. Voilà, on louerait Dieu, on serait en harmonie avec lui. Et aujourd'hui, toutes nos activités doivent tourner autour de Jésus qui nous a sauvés du péché, parce que c'est ça le problème de l'humanité, que personne ne nous trompe sur ce que nous faisons. Nous ne propageons pas une philosophie, une idéologie. Il y en a beaucoup dans le monde, mais ces philosophies, ces idéologies, ces religions ne sauvent pas du tout. Voilà, on peut toujours défendre ses ancêtres, défendre sa patrie, défendre l'histoire de la France, l'histoire de l'Afrique du Sud, l'histoire de l'Amérique comme on veut, mais ça ne sauve personne. Voilà, l'objet central de nos réunions, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui sauve du péché. Donc on est donc conduit à parler donc du péché, parce que si on ne parle pas du péché, les gens ne vont pas se rendre compte de la bonne nouvelle de l'Évangile, que l'Évangile nous apporte. Ils vont pas se rendre compte de l'importance de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de nos péchés qui sont effacés par le sang de Jésus, par Jésus. Donc nous lisons d'abord Genèse 3, 6 à 13.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé.
Voilà le premier péché quand il est commis par Adam et Ève. Ils sentent les deux la colère de Dieu. Ils sentent leur nudité. Ils se rendent compte de leur nudité et spirituellement, c'est de la saleté. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, c'est écrit, on parle à une église, on dit, mais tu te crois, veux-tu, mais tu es nu. Spirituellement, la nudité, c'est le mal, c'est le péché, c'est la saleté. Ils se rendent compte qu'ils sont devenus nus, qu'ils sont sales. Et ils se cachent. La pression de la colère de Dieu. Dès qu'ils ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait ennemis de Dieu. Du coup, ils se cachent. Ils ne veulent pas que Dieu les voie. C'est ça qu'il y a dans tout homme sur terre. On va dire, mais il y a des gens qui ne sentent pas ça. Hein. Ils ne sentent pas ça parce que le diable les a voilés. C'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 3, 4. Si l'évangile n'est pas accepté, compris par certaines personnes, parce que le diable les a voilés. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour déchirer ce voile, pour faire que les gens réalisent leur état et cherchent le secours de Dieu. Adam et Ève réalisent qu'ils ont péché. Et je peux vous dire que c'est ce poids-là qui agit sur toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et les gens se cachent. Ils ne veulent pas que Dieu les voie. Ils se cachent comment aujourd'hui? Ils se cachent en se disant athée. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis un athée. Mais pourquoi tu défends cela? Ils défendent cela parce qu'ils ont l'impression d'avoir affaire à Dieu en face d'eux. Ils se cachent de Dieu en disant que je suis athée. Ils sentent la colère de Dieu à cause du péché qu'il y a en eux. Ils sentent. Alors, ils se cachent en disant Dieu n'existe pas. Mais en réalité, ils savent. Mais ils ne sont pas d'accord avec Dieu au fond d'eux. Mais ils sentent la colère de Dieu. Et pour se cacher de la colère de Dieu, ils disent qu'il n'existe pas. Mais s'il n'existe pas, pourquoi tu emploies tant d'efforts à le critiquer et à le combattre s'il n'existe pas? Pourquoi tant d'efforts à critiquer Dieu? C'est parce que tu sens qu'il existe. Mais tu ne veux pas t'humilier, c'est tout. Le vrai problème reviendra toujours à l'orgueil. Ils se sont cachés. Mais qui peut se cacher du Dieu qui voit tout? Donc le fait même de se cacher prouve quoi? C'est qu'il y a un orgueil qui a pris l'homme, qui peut penser qu'il peut se cacher vraiment de Dieu. Celui qui t'a créé, celui qui voit tout, celui qui est lumière. Lumière, c'est synonyme de vision. Il est lumière, donc il voit tout. Penser déjà se cacher de lui, c'est le témoignage d'un grand orgueil. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils se sont cachés, ils ont pris des feuilles. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Ils se sont cachés derrière ça et ils pensaient se cacher de Dieu. Mais Dieu dit, mais attends, qui peut se cacher de moi? Aujourd'hui, les gens se cachent comment? Dans les religions. La religion, c'est quoi? C'est une liste de pratiques, une liste de croyances censées faire que Dieu soit avec toi. Donc, c'est des choses que tu dois faire. Mais non, c'est impossible de se rapprocher de Dieu par ce qu'on fait. C'est Dieu seul qui peut se rapprocher de nous par le pardon des péchés. C'est tout. Tu ne peux pas, toi, te rapprocher de Dieu parce qu'il est un feu dévorant. Le seul moyen d'être en contact avec lui, c'est lui qui doit diminuer l'intensité de son feu, s'approcher de toi en te transformant comme en son image pour qu'il y ait une fusion. Sinon, tu brûles. Pour que tu ne brûles pas, toi-même, tu dois être une sorte de feu. Toi-même, tu dois être une sorte de lumière pour que tu ne brûles pas face à le feu. Si tu es autre chose, tu brûles. Donc, Dieu s'emploie d'abord à te sanctifier par son sang, par le sang de Jésus, pour s'approcher de toi. Revenons sur le fait de se cacher. Les gens se cachent dans la religion. Il faut prier 5 fois par jour. Il faut faire le carême. Il faut aller dans les bâtiments, prier Dieu chaque dimanche. Ça, ce sont des œuvres. Ça ne sauve pas. Il n'y a que le sang de Jésus qui sauve. Les hommes se cachent derrière la science pour faire comme si Dieu n'existait pas. En réalité, ils sont conscients de leur péché. Et il fuit Dieu. Il fuit Dieu en mettant autre chose devant. C'est ça, se cacher. Et jusqu'aujourd'hui, les gens se cachent. Maintenant, pendant qu'en cherchant à se cacher, ils attirent donc le diable qui leur donne des couches de voile, ce qui fait qu'ils mènent leur vie, parfois en étant vraiment distraits, endormis par rapport aux réalités spirituelles, au péché. Mais Dieu étant tout-puissant, le Saint-Esprit étant envoyé dans le monde, il y a quand même dans chaque humain une conviction de péché. Mais quelle est la réponse que les gens donnent? C'est la religion. Entrer dans une religion, faire un certain nombre de rites et de rituels, de dates, pour se sentir bien avec Dieu, ça ne sauvera personne, ça. Ou alors, dire que Dieu n'existe pas. Ça ne te sauvera pas non plus, parce qu'au fond de toi, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais qu'il y a un problème. Et ce problème est un poids. Vous savez, le péché est un poids qui crée une sorte de tristesse cachée, latente, une sorte de langueur, de fatigue cachée, latente, qui est là sur toi, qui t'empêche d'être heureux vraiment. Il y a ce poids-là sur tous les humains. Et comment ils se cachent de ce poids-là? Par des plaisirs. Comme ils sentent cette lourdeur du péché, alors il faut faire des activités, sortir de l'adrénaline pour certains, faire des sauts à l'élastique, soit en parachute, le ski, là où c'est interdit. Donc, ils veulent des sensations. Ces sensations-là, c'est pour se cacher de la vraie sensation qui est là, qui te dit, il y a le péché en toi, il y a un poids en toi, ça ne va pas, tu es malade. Alors, pour se cacher de ça, ben, on accélère dans le plaisir. On accélère dans les activités, mais rien n'y fait. On accélère dans la cigarette, les drogues, mais rien n'y fait. Il y a à un moment donné ce poids-là qui revient toujours parce qu'il a commencé depuis Genèse. C'est le poids du péché. C'est comme la pesanteur. Hein? Tu peux monter dans un avion. Tu es comme vainqueur de la pesanteur, tu voles comme un oiseau, tu finis par toujours te poser sur terre. Même les oiseaux finissent par se poser sur terre. Même les oiseaux. La pesanteur, tu vas utiliser les ailes pendant 4 heures, tu vas faire des vols. À un moment donné, tu finiras par te poser sur terre parce que cette pesanteur ne te lâche pas. C'est la même chose avec le péché. Ça ne te lâche pas. Tu as beau faire des activités religieuses, ça ne te lâchera pas. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, il y a un docteur, un grand religieux de l'époque qui vient voir Jésus pour lui dire « Je fais comment ?» Il n'a même pas parlé, mais Jésus a lu dans son cœur. Lui, il a tout simplement dit « Je crois que tu viens du ciel. » Il a dit à Jésus, « Je crois que tu viens du ciel. » Parce que les miracles que tu fais, il n'y a que Dieu qui puisse faire ces miracles. Donc je crois que tu viens de lui. Jésus a lu qu'est-ce qui était l'inquiétude de cet homme religieux, qui était un docteur. Quelle était son inquiétude? Le poids du péché. Qui que tu sois, il y a le poids du péché qui t'embête. Vous savez, le poids du péché engendre la peur maintenant de tout. Parce que le poids du péché t'enlève l'assurance. Tu n'es plus sûr de rien. Mais comme on l'a dit, les gens cherchent à s'en cacher par des assurances, par des traitements médicaux réguliers, par l'argent, mais ce poids-là ne les quitte pas. C'est pourquoi ils ont toujours besoin de plus d'argent. Pour couvrir ça, ils ont beaucoup plus de besoin de protection, de garde du corps. Parce que, vous savez, tout ça, c'est le poids du péché, la peur qu'on t'agresse. Tout ça, c'est le poids du péché qui est en train de circuler dans l'humanité et dans les cœurs des humains. Ils ne sont pas bien et ils se cachent à travers des protections, de l'argent, le mariage, l'enfantement, mais en réalité, tu n'es pas bien. Parce que si tu n'étais pas, si tu étais bien, tu ne chercherais pas quelque chose pour combler ton bonheur, combler ta vie. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose qui ne va pas là. C'est le poids du péché. Ça dérange la vie de tout homme. Mais tant que Dieu n'est pas intervenu, tu vas traîner ce poids du péché. C'est ce que nous étions tous. Dieu seul peut enlever ça. Dieu seul. Et comment il a décidé d'enlever tout ça? C'est par le sang de son Fils Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus qu'il peut enlever ce péché. Il n'y a pas que le fait d'être mal à l'aise par le péché sur terre. Il y a le jugement, la conscience du jugement final. Certains ont réussi, par des plaisirs, protection et beaucoup d'argent, à comme se sentir un peu bien sur terre. Je dis bien un peu parce que s'ils étaient vraiment bien, ils ne prendraient pas la cocaïne alors. Alors qu'ils sont riches, millionnaires, mais ils prennent encore la cocaïne. Ils sont riches, millionnaires, mais ils sont encore jaloux. Ça veut dire que le poids du péché agit toujours. Mais ils ont réussi à un certain niveau à comme éteindre ce poids du péché terrestre. Mais il y a encore, malgré ça, la conscience du jugement dernier. Tout le monde sait qu'un jour il sera jugé. C'est pourquoi Adam et Ève se sont cachés. Ils ont senti que Dieu va leur demander des comptes. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui va se passer pour tous les humains. On sait qu'un jour, quelqu'un nous demandera de compte. On le sait parce que on le voit quand on est sur la route et qu'on a été flashé par un radar. On sait que dans la boîte aux lettres, un jour ou l'autre tombera un papier qui nous réclame, j'ai oublié, 90 euros ou un point de permis, quelque chose de ce genre-là. Tu le sais, puisque tu as été flashé. Et donc, tout homme sait qu'il est flashé par Dieu. Même s'il essaie d'enterrer le poids du péché par les plaisirs, par l'alcool, les drogues, par la protection humaine, les assurances, par une belle maison, au fond de lui, il est mal à l'aise, non seulement parce qu'il ne réussit pas à être en paix totale avec, à cause du poids du péché, il n'y a pas que ça, il y a la conscience du jugement dernier. Nous allons lire d'Apocalypse 20, 11 à 15, où on voit ce jugement dernier, comment il va s'abattre. La conscience du jugement pollue la vie de l'homme. Il sait qu'il y aura un jugement. Mais au lieu de chercher à se mettre en règle avec Dieu, il va chercher à se cacher par la religion, en faisant de bonnes œuvres, en faisant tel style de prière. Mais ça ne sauve pas. Apocalypse 20, 11 à 15.
Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu.
Voilà. C'est le jugement dernier. Il y a nos actes mauvais qui sont écrits dans des livres. C'est écrit, c'est enregistré. C'est grave, hein? C'est enregistré. Vous savez, comme on a dit sur les flashs, du moment que tu es flashé, c'est enregistré au ministère de l'Intérieur. Il y a quelqu'un qui analyse ton dossier, qui va envoyer un courrier pour te demander des comptes. Mais imaginez que chaque seconde aujourd'hui, chaque seconde qui coule est enregistrée. Chaque seconde de ta vie, c'est enregistré par une machine céleste qui met ça sur des livres. Et le jour du jugement, on va prendre le livre, on donne le nom, on donne ton nom, on prend la page où se trouve ton nom. On commence à dire, ben voilà comment tu as offensé le Dieu qui t'a créé. Voilà comment tu es sorti de l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, ce n'était pas que tu tues, ce n'était pas que tu voles, ce n'était pas que tu vives en concubinage. Ce n'était pas ça l'objectif de Dieu. Ce n'était pas que tu aies des petits copains ou petites copines. Ça, c'était la saleté, c'était détruire l'être humain. Le péché détruit l'être humain. Or, l'être humain a été créé par Dieu. Dieu n'est pas d'accord qu'on détruise ce qu'il a créé. Quand le péché entre dans l'être humain, ça le détruit. Et c'est ça qui conduit à la mort. Nous mourons parce que nous avons reçu le péché, nous avons péché. C'est pourquoi nous mourons. Et ça, Dieu n'est pas d'accord que nous ayons fait ça. Qu'on ait produit la mort de ce que lui l'a créé par le péché. Et on te montre, il est écrit, les livres furent ouverts. Hein, c'est écrit, et les morts furent jugés, verset 12. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, dans les livres au pluriel. Vous savez, il y a deux catégories de livres. Il y a un seul livre qui est à part, ça s'appelle le livre de vie. Quand tu es là-bas, c'est bon pour toi. Mais il y a d'autres livres, c'est écrit, on va relire le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres au pluriel furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est à part, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, dans les livres au pluriel. Puisqu'il y a beaucoup d'humains, vous imaginez si on doit enregistrer les actes de quelqu'un depuis sa naissance, ça va faire beaucoup de livres. Par contre, il n'y a qu'un seul livre de vie, lui, ne comporte que les noms des gens qui sont admis au ciel. Il n'y a plus leurs actes mauvais. C'est pourquoi notre titre, c'est quoi ? Nos péchés effacés. Donc, tous les actes mauvais sont effacés par Jésus. Par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi l'importance de Jésus ? Jésus n'est pas un simple prophète, n'est pas un simple prédicateur. Il a pris nos péchés sur lui et il a été condamné à notre place, de sorte que tes péchés ne sont plus comptés. Ton nom n'est écrit que dans le livre de vie. Quand tu as cru en Jésus, et cela gratuitement. Mais comment on peut refuser un salut si simple et bon ? Comment ? Il faut vraiment être méchant pour soi-même. Dieu ne te demande pas de faire ceci ou cela, de faire de la religion. Il te demande tout simplement de croire en son Fils qui a pris ses péchés pour toi. Et de sorte que tes péchés soient effacés et qu'une nouvelle vie commence pour toi par la résurrection du même Fils de Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'on comprend que tous les pasteurs, tous ces gens-là, c'est zéro. Celui qui sauve, c'est Jésus. C'est le seul, c'est lui qui a pris les péchés. Il a été crucifié, condamné à la croix. Et deuxième chose, il est ressuscité, donc il nous a entraînés dans sa résurrection. Nous, nous ne sommes que des gens qui répétons ce qui est écrit. Qui parlons de cela, c'est tout. Mais c'est Jésus qui a fait la chose. Donc n'acceptez pas que quelque part où vous soyez, quelqu'un ou une institution prenne beaucoup plus d'importance que Jésus lui-même. Jésus seul sauve. Les livres ont été ouverts, les gens ont été jugés. Parce que les gens m'ont dit, mais je ne sais pas pourquoi je me retrouve ici. Mais on va te montrer dans le livre, voilà tout ce que tu as fait. Mais moi, j'étais sage. Mais tu étais sage, mais tu avais volé telle somme d'argent dans le sac de ta maman. Ah oui, mais c'était une seule fois. Mais oui, mais une seule fois, ça suffisait pour te condamner pour l'enfer, pour le feu éternel. Parce que le péché, il faut comprendre la puissance du péché. Le péché, dès qu'il te touche, tu es pollué définitivement. Même un seul. Mais quand Adam et Ève ont péché, c'était un péché en quantité. C'était un. Mais ça suffit pour polluer tout le monde et nous aussi, en même temps les descendants. Tout. Un seul péché. Un. C'est ça. Il faut comprendre tout ça. C'est ainsi que tu peux comprendre Jésus. C'est ainsi que tu peux comprendre, on ne peut être sauvé que par Jésus. Un péché a détruit toute l'humanité, a détruit. Donc on te montrera dans le livre, on te dirait, voilà, tu as murmuré contre ton papa. Voilà ce qui est écrit là. Honore ton père et ta mère, tu n'as pas obéi à ça. Ah mais juste ça, mais un seul péché pollue tout. Et Dieu est bon, il a fait aussi que un seul sacrifice efface tout. Mais qu'est-ce qui est magnifique? Un péché, ça pollue tout le monde, mais un seul sacrifice aussi sauve tout le monde. C'est le sacrifice de Jésus. Dieu a été bon. Alors comment résister à un tel salut? Ils ont été jugés d'après ce qui était le livre de vie. Lisons Jean 5, 24 à 29 pour compléter notre connaissance d'Apocalypse 20, 11 à 15. Pour qu'on comprenne vraiment que ce que nous disons est vrai, il y a un livre à part qui est le livre de vie. Les gens qui sont dans ce livre-là, ils ne sont pas jugés. Mais les gens qui sont dans l'autre, qui ne sont pas dans le livre de vie, eux, ils sont jugés en fonction de leurs actes négatifs qui sont dans beaucoup de livres. Nous lisons maintenant Jean 5, 24 à 29.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.
On vient d'écouter ce qui est lu. Recommençons le verset 24.
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie.
Amen. Donc, il est dans quel livre? Il est dans le livre de vie. Il ne passe point en jugement, il ne sera plus jugé. Celui qui écoute Jésus, qui se laisse sauver par lui, il n'est plus jugé. Puisque tout simplement, lui, Jésus, a déjà pris ses péchés, a été condamné à sa place. C'est ça l'évangile. Il n'est plus jugé. Mais les autres, c'est écrit au verset 28 à 29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ils seront jugés. Mais ceux qui croient en Jésus, eux, ils ne seront pas jugés parce que leurs péchés sont effacés. s'est effacé. Il n'y a plus. Parce que Jésus a tout pris à la croix. Bien-aimés, toute notre théorie, toute notre doctrine tourne autour de ce problème-là. Parce que tout le mal qu'on voit sur terre, ça vient du péché. Tout le poids, la jalousie, la lourdeur, les mauvaises envies, tout vient du péché. Et qui règle le compte du péché? C'est Jésus-Christ. Il a effacé. Nous allons lire concrètement. Non, avant d'arriver à ça, lisons Apocalypse 14, 13. Pardon, Hébreux 10, 1 à 18, et ensuite on lira Apocalypse 14, 13. Hébreux 10, 1 à 18.
En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.
Voilà, que dit Paul ? Il parle de la loi juive. Il dit que cette loi juive que Dieu avait donnée proposait des rituels et l'observance de certaines ordonnances. Il dit que le fait qu'on répète ces choses-là chaque année, c'est la preuve qu'elles ne sont pas suffisantes. Ces rituels-là, ces ordonnances, tout ça n'est pas suffisant puisqu'on doit répéter ça chaque année, donc ça ne sauve personne. C'est quelque chose qui était là en attendant pour apaiser. C'est tout ce qui veut dire. Donc la religion que quelqu'un peut faire, ça ne sauvera pas. Puisque la preuve, c'est que tu répètes les mêmes actes, les mêmes rituels, tu pries 5 fois par jour, tu fais telle chose. Tu répètes ça parce que ce n'est pas suffisant, parce que quelque chose qui est suffisant n'a plus besoin d'être répété. C'est ce qu'est le sacrifice de Jésus. C'est que c'est suffisant, ça n'a plus besoin d'être répété, ça a été fait une fois pour toutes, puisque ce seul sacrifice arrive à régler le problème du péché de toute l'humanité. C'est ça la bonne nouvelle. Lisons maintenant la suite.
Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés.
Il est impossible que le sang des animaux enlève le péché des humains. C'est des créatures pas de même niveau. Le sang des animaux, des taureaux qu'on utilisait autrefois ne pouvait pas réellement enlever le péché. Ça n'apaisait que pour un temps la colère de Dieu, le temps que le vrai sacrifice vienne. C'est pourquoi Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, il dit, il l'appelle l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève. Lui, maintenant, il efface. Il ne couvre pas par du sang d'animaux, mais il efface le péché de l'humanité. C'est ça la différence. Et là, on nous dit, le sang des animaux ne pouvait pas, ni le bon comportement, ni de bonnes œuvres, ça ne pouvait pas enlever le péché des humains. Il n'y a que le sang de Jésus. Nous continuons.
C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde.
Alors, le frère Paul, il dit, mais... Pourquoi dans le psaume 40, il est écrit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors que c'est le même Dieu qui avait demandé ces sacrifices? Mais c'était pour dire que, en réalité, même si c'est Dieu qui avait demandé ça, ça ne suffisait pas à effacer le péché. C'est là qu'il dit, il a formé un corps à son fils pour que son fils vienne en homme. C'est lui qui allait être l'agneau de Dieu, dont le sang seul pouvait effacer le péché de l'humanité entière, parce que c'était un humain, et deuxièmement, parce que son sang était pur sans péché. Alors que le sang des animaux, c'est des animaux, ce n'est pas de créatures de notre standard. Nous lisons verset 10.
C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Une fois pour toutes. Voilà, nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus. C'est fini, une fois pour toutes. Verset 11.
Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
Amen, amen. Par une seule offrande, par un seul sacrifice à la croix, il a amené à la perfection. C'est-à-dire, quand Jésus t'enlève les péchés, il t'entraîne directement dans sa perfection à lui, par sa résurrection. Continuons.
C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché.
Amen, amen. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de faire pour te sentir bon chrétien, c'est zéro. C'est la preuve que tu n'es pas libéré de tes péchés par Jésus. Et on te dit ici que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. L'offrande que toi tu veux faire là, pour comme que Dieu t'accepte, est une offrande vaine, inutile. D'ailleurs, c'est ça qui explique que tu n'es pas heureux. Parce que tu essayes de tout faire pour que Dieu te félicite. Mais Dieu nous dit, mais pourquoi, puisque Christ a déjà fait? Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé en un corps. Alors je dis, me voici Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Jésus le dit dans Psaume 40, par prophétie, Dieu ne voulait plus de sacrifice des humains. Parce que c'est des sacrifices vains, ça ne peut pas changer l'être humain, ça ne peut pas effacer le péché. Et alors il a formé un corps à son fils, pour que son fils vienne couler son sang et que le péché soit effacé once for all, une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Vous voyez pourquoi on aime Jésus? Vous voyez pourquoi on l'élève? Vous voyez pourquoi c'est écrit dans Philippiens 2 que le nom de Jésus a été placé au-dessus de tout nom? Parce qu'il s'est humilié en prenant nos péchés et a subi la condamnation à notre place. C'est pourquoi nous lui sommes reconnaissants. Mais quelqu'un qui n'a pas expérimenté cela va toujours chercher à se faire voir bien chez Dieu. En faisant ceci, en faisant cela, il va toujours chercher à ce que les humains lui soient favorables. Il cherche en réalité à être accepté. Mais Dieu te dit, moi j'étais déjà accepté. Tes péchés sont effacés. Quand tes péchés sont effacés, la réconciliation est faite avec moi. Tu n'es pas satisfait d'être avec moi. Tu veux quoi encore? Bien-aimé, je ne sais même pas comment parler de tout ce que je parle là, parce que c'est... Ce que Jésus a fait, c'est tellement grand. Le péché, c'est la cause de tous nos problèmes. C'est le péché. Pas forcément le péché que toi tu as commis, mais le péché qui s'est installé dans l'humanité par notre héritage adamique, c'est la cause de tous les problèmes. Donc, quand quelqu'un lui-même réalise qu'il est libéré, il saisit que d'autres aussi peuvent vivre ça. Il faut qu'on revienne à Christ. C'est lui seul qui peut effacer les péchés. Ce n'est pas venir chaque dimanche à l'église qui efface les péchés. C'est le sang de Jésus, une fois pour toutes, qui a effacé tous nos péchés. Nous lisons, donc nous revenons sur Apocalypse 14, 13. Apocalypse 14, 13. Les gens vont dire, ah, mais dans ce cas, mais tout ce qu'on fait, on va le voir. Pourquoi on le fait? On le fait, c'est que au début, qui a cherché l'autre? C'est Dieu qui a cherché. Où es-tu, Adam? Maintenant, Dieu efface tes péchés, c'est qui va chercher l'autre? C'est toi maintenant qui cherches. Mais qui m'a sauvé? Tu commences à chercher parce que tu as réalisé que quelqu'un t'a enlevé un poids. Mais tu cherches, mais c'est qui? C'est ce que nous faisons, nous, tous les dimanches, tous les mardis, tous les lundis. Et chaque heure, nous cherchons qui nous a sauvés. Un vrai chrétien ne sera jamais fatigué de prier parce qu'il cherche à tout moment qui m'a sauvé, qui m'a fait cela. Je vais le prier, je vais être reconnaissant, je vais le servir. C'est ça qui nous motive. Ce n'est pas pour être pardonné. On cherche plutôt qui nous a sauvés. On veut le servir et lui être reconnaissant. C'est ça la différence. Nous lisons, parce que je le dis avant que je n'oublie, on lit Apocalypse 14, 13, on va parler d'une rencontre au ciel.
Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. »
Amen, amen, amen. Maintenant, les gens qui étaient dans le livre de vie, eux, ils ont d'autres livres. Mais ceux-là, ça contient quoi? Leurs œuvres faites en esprit. Leurs œuvres faites avec l'aide de Dieu. Leurs œuvres faites, les œuvres agréables à Dieu. De sorte que, quand on va se rencontrer au ciel, tu vas dire, je m'appelle Jérémie. La personne qui est en face de toi va dire, ah, Jérémie, qui a prêché l'évangile en Chine, qui a fait 30 ans de prison à cause de ça. Jérémie, qui a été utilisé par Dieu pour sauver 1000 personnes. Au fait, tu seras défini par ce que tu as fait pour Dieu sur terre. Mais pas une seule fois, le monsieur en face de toi te dira, mais Jérémie qui a menti à sa mère, c'est fini. Il ne voit même plus ça. Tu seras défini par ce que tu as vécu pour Dieu, ce que tu as enduré pour Dieu, ce que tu as produit pour Dieu. Oh, c'est toi Jérémie, celui qui a été en mission en Birmanie, qui a préféré la prison plutôt que renier le Seigneur pendant la torture. C'est toi, Epaphras, mon ami Epaphras de Chine, qui a décidé de jeûner 5 jours par semaine pour que l'évangile se manifeste puissamment en Chine après avoir fait presque 20 ans de prison. On l'a sorti de prison, il a dit, je vais leur montrer que Jésus est plus fort que la prison. Déjà, il ne voulait pas sortir de la prison. On l'a sorti de force. On a dit qu'il a régné le Seigneur. Ils ont inventé qu'il a régné le Seigneur pour l'autoriser, puisque l'ordre, c'était que tu régnies Jésus pour qu'on te sorte de prison. Comme lui, il a refusé de régner Jésus, ils ont écrit ça sur son dossier, qu'il a régné le Seigneur. On le sort de prison de force. Lui, maintenant, pour leur dire qu'il n'a pas régné le Seigneur, il s'est construit une maison à côté de la prison. Pour leur dire, je n'ai pas renié le Seigneur, vous avez menti. Et il vivait maintenant à côté de la prison le reste de sa vie. Et il jeûnait 5 jours par semaine en reconnaissance à son Jésus-Christ. Il dit, Jésus m'a fait beaucoup de bien, il m'a sauvé. Il a donné sa vie pour moi. Bien-aimé, quand tu écoutes quelqu'un comme ça, tu es contaminé, quoi. Positivement. Epaphras. On dirait, mais l'Epaphras qui a construit la maison devant la prison. Mais on ne se souviendra plus de tout ce que tu as fait en mal. C'est fini. Ce sont tes œuvres qui te définiront. Parce qu'il y a beaucoup de Jérémie. Il y a beaucoup de gens. Donc quand on va se rencontrer, quand Dieu dit, mais moi c'est Jean. Oh, Jean de la Colombie. Celui qui a prié toute une nuit pour le salut d'un tel. C'est comme ça qu'on va commencer à te citer toutes tes œuvres. Mais bon, je ne savais pas que tout ça était enregistré. Oui, mon ami, c'est comme ça qu'ici qu'on se connaît. On se connaît par ce que nous avons fait pour Dieu sur terre. C'est ça qui va nous définir là-bas. Leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14, 13. Leurs œuvres les suivent. Mais on ne se souvient plus de ce que tu as fait en mal. Il n'y a plus. Car le sang de Jésus a... Verset 1, verset 17, non? Hébreux 10, 17. Qu'est-ce qui est écrit? Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. C'est effacé. C'est effacé. C'est ça la force de la bonne nouvelle. Allons vite maintenant dans Luc 23. Luc 23, 35 à 43. Quelqu'un qui expérimente maintenant cet effacement-là. Luc 23, 35 à 43.
Le peuple se tenait là et regardait les magistrats. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Amen, amen, amen. Bien-aimé, cet homme se retrouve crucifié à côté de Jésus. Lui, il était un brigand et il y avait donc un autre confrère brigand de l'autre côté de Jésus. Jésus était au milieu. Le premier brigand commence à dire à Jésus, « Mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. » C'est quoi cette affaire-là de dire « Fils de Dieu, tu te retrouves à la croix. » Le deuxième brigand dit, « Mais non, attention, attention. Il ne faut pas parler méchamment de cet homme. Il n'a rien fait de mal. Nous, c'est nous les méchants. C'est nous les mauvais. Nous méritons ce qui nous arrive. » Vous savez, cette phrase-là, se retrouve dans le cœur de tout homme. Au fond de nous, on sait que ça ne va pas parce qu'on a commis beaucoup de péchés. Ce poids-là nous embête. Et le diable se rajoute en accusateur pour renforcer ce poids-là. C'est l'accusateur de nos frères, c'est écrit. Il en rajoute. Ce qui est malheureux, c'est que même nous, les chrétiens, alors qu'on est pardonné, on est encore embêté par des péchés qu'on a commis il y a 15 ans, il y a 20 ans. Ça, c'est l'orgueil humain qui aurait voulu qu'on soit sans faille. Voilà. La simplicité veut qu'on accepte le don de Christ. Il nous a purifiés. Accepte ça. Tu es sauvé par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas toi-même. C'est une honte hein, d'être sauvé par quelqu'un d'autre. Mais c'est cette humiliation-là qui nous amène au ciel. Vaut mieux l'accepter. Je suis purifié par le sang de l'agneau. Et le monsieur dit, mais nous, on mérite ce que... ce qui... Nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui n'a rien fait. Quand il s'humilie comme ça, c'est là qu'il voit clair. C'est là qu'il voit clair. Il reçoit par le Saint-Esprit la révélation que Christ est à la croix pour ses péchés à lui. Du coup, lui s'est senti libéré, innocent. C'est pourquoi il se permet de dire à Jésus de se souvenir de lui. Est-ce que vous trouvez normal qu'un bandit demande qu'on se souvienne de lui par injuste? Non. Pourquoi il a ce courage-là? Dites-moi pourquoi il a ce courage de dire, alors qu'il vient de dire que lui, il est un bandit, il a péché, c'est normal qu'il se retrouve à la croix. Mais après, il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est parce que quelque chose s'est passé entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a réalisé que ses péchés étaient enlevés. Il n'en a plus ressenti le poids. Il a compris que c'est cet homme-là qui est à côté, le Fils de Dieu qui les a pris. C'est ça qui l'autorise à dire, j'irai au ciel. Parce que Christ a pris cela. Donc ma prière à travers cette prédication, c'est que nous comprenions, moi le premier, que Christ a pris nos péchés. Plus question que le poids, la lourdeur du péché nous embête d'avancer avec Christ. Ça suffit. Jésus a pris. C'est effacé. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Toute la révélation devient claire pour lui. Et il a le courage d'aller, de dire qu'il peut aller au ciel. Vous savez, quand moi, j'ai eu ma première expérience avec le Seigneur, je n'ai pas eu à dire pardon pour mes péchés, je ne veux plus pécher. Je n'ai pas eu. Quand j'ai vu le film de Damien, quand je suis sorti de là, je suis devenu bon. Comment expliquer ça? Pendant 2 semaines, j'étais heureux et je me comportais comme une personne correcte qui ne veut pas pécher. Pendant 2 semaines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là en réalité? Quand je voyais ça, ce film-là, et que je comprenais, en fait, quand j'ai regardé le film, j'ai compris la croix ce jour-là. Le fait d'accepter la croix, de le saisir et de l'accepter, automatiquement mes péchés étaient enlevés. Mais à l'époque, je n'ai pas de connaissance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que quand je sors de là, pendant 2 semaines, sans que quelqu'un me parle de la Bible, de péché, de quoi que ce soit, de moi-même, je n'en veux plus. C'est ce qui se passe quand le Seigneur te pardonne. Maintenant, tu as envie de quoi? De lui. Le monsieur, quand il a senti ses péchés dégagés, il a eu envie maintenant du ciel. Il a eu envie de Jésus. Il a eu envie de Dieu. Il a dit, ne m'abandonne pas Jésus, prends-moi avec toi. Quand on va le voir, le vrai pardon va pousser la personne vers Dieu. Moi, je n'ai pas eu de prédication. Mais je sais seulement que quand cet épisode est passé, pendant 2 semaines, j'étais calme à la maison. Les gens ne me comprenaient plus. À l'école, je ne parlais plus. J'étais quelqu'un de différent. Ça a commencé là. Mais après, par manque d'enseignement, par manque d'encadrement, j'ai replongé. Mais je sais comment ça se passe parce que ça m'est arrivé. Comme ce voleur à la croix. Sans que tu dises clairement les choses, sans que tu les comprennes clairement, il y a quelque chose qui est parti et qui te pousse maintenant vers Dieu. Et quelque chose d'autre te pousse vers Dieu. C'est ça qui s'est passé. C'est maintenant toi qui le cherches. Il t'a cherché, il t'a trouvé, il t'a nettoyé. Et maintenant toi tu cherches. Qui m'a fait ça? Et tu veux être comme lui. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Il efface les péchés. Donc quand il efface les péchés, tout le poids qui a traîné sur toi depuis des années, qui te poussait davantage dans le péché. Parce que ce poids-là, ça nous pousse toujours à rouler dans le péché. Même à travers la religion, ça te pousse à faire beaucoup plus de choses, à haïr les autres que tu trouves qui ne sont pas suffisamment religieux. Tu fais toujours beaucoup plus de choses pour plaire à Dieu parce qu'en réalité, le poids de péché t'embête. Mais quand ce poids de péché est enlevé, tu es libre. Tu fais les choses parce que tu aimes Dieu. Tu veux de lui, tu veux être reconnaissant, tu veux t'approcher de lui. Personne ne te force de venir dans une réunion. C'est toi qui veux servir Dieu, tu es bien. Mais quand le poids des péchés est encore là, sans que tu t'en rendes compte, tu sens que ce n'est pas trop ton endroit. Au fait, quand on dit prière, quand on dit louange, quand on dit les choses de Dieu, au fond de toi, le péché te fait dire que ce n'est pas ton endroit. En réalité, c'est le péché. Nous, on croit qu'on n'a pas envie. Nous, on croit qu'on est fatigué. En réalité, le péché te fait croire que bah, ce n'est pas pour toi. C'est pour les saints là-bas. C'est... Mais ce n'est pas clair dans la tête. Mais quand tu sais que tu es sanctifié, purifié par le sang de l'agneau, voilà, tu gambades. Voilà. Comme un jeune agneau. Tu sautes de joie comme, vous savez, les petits chiens commencent à courir par-ci, par-là, à gauche, à droite. Voilà, c'est ça. C'est ça qui s'est passé pour cet homme à la croix. Il a été dégagé de ses péchés. Et maintenant, c'est lui qui cherchait à s'attacher à Dieu. Nous clôturons avec Marc 2, 1 à 10, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur le péché. Mais quand le péché est enlevé, tout le reste va aller ensemble. Avec cette délivrance, la guérison, la joie, la paix, le fonctionnement avec Dieu va s'installer automatiquement. Nous lisons Marc 2, 1 à 10.
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Amen, amen. À travers cet exemple, Jésus nous montre le lien qu'il y a entre le malheur de l'humanité et le péché. Les souffrances, les maladies dans l'humanité, le lien qu'il y a avec le péché. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent des dons de guérison, mais tu ne peux pas. Le vrai don de guérison vient avec aussi la connaissance de l'œuvre de Christ à la croix, liée au péché. Donc les gens prennent Dieu à la blague. Il va te donner un don comme une baguette magique pour que tu pries pour les gens. Mais tu pries pour les gens pourquoi? Pour juste être guéri? Non, le Seigneur veut guérir totalement l'être humain. Il faut qu'il y ait cette compréhension dans la pratique du don de guérison. Quelqu'un qui a le don de guérison, ce n'est pas comme un médecin qui ne se préoccupe pas de ta santé spirituelle, qui ne se préoccupe pas du problème des péchés, qui vient juste te donner le médicament. Et la preuve, c'est que tu retombes malade quelques mois ou quelques années plus tard. Mais quand Jésus-Christ donne la guérison, il donne la libération, le pardon des péchés en même temps. C'est ça qu'il fait, lui. Il montre le lien. Bien-aimé, en réalité, tout ce qu'on voit comme malheur, souffrance, c'est lié au péché. C'est lié au péché. Lorsqu'on va se mettre à combattre le péché, à dénoncer le péché, à profiter, à bénéficier, à accepter le sang de Christ qui efface les péchés, on va voir, les maladies vont fuir. Elles vont fuir parce que rien ne peut résister. Du moment que Jésus t'a effacé tes péchés, les autres conséquences s'en vont. Il dit, mais ah bon, moi je lui dis, tes péchés sont pardonnés parce que Jésus comprend le vrai besoin de l'homme. C'est le problème du péché. C'est le problème du péché parce que les autres l'ont amené pour être guéri. Mais Jésus connaissait le vrai problème. Le fond, c'est le péché parce qu'il y a des gens qui marchent mais qui sont malheureux. Ce n'est pas la guérison qui rend heureux, c'est la paix avec Dieu. Le problème du péché enlève la paix avec Dieu. Et quand tu n'as pas la paix avec Dieu, tu vas chercher à combler par des mauvaises choses et tu t'enfonces dans le péché. C'est ça le problème du péché. Et Jésus commence par le vrai problème, qui est la source de tout. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Oh mais non, c'est impossible, c'est Dieu seul qui peut le faire. Mais oui, mais je vais vous montrer que j'ai cette autorité-là. Eh bien, lève-toi et marche. Je prouve que ces péchés vraiment ont été pardonnés. Parce que si ces péchés n'étaient pas pardonnés, ils ne pourraient pas être guéris. Je le prouve. Bien-aimé, Dieu veut nous guérir totalement. Mais nous devons accepter le sang de Jésus qui efface les péchés. Beaucoup vont dire, mais on est déjà des chrétiens, on l'a accepté. Vérifie bien, bien-aimé. Vérifie bien. Parce que je peux vous dire que on peut toujours venir dans un esprit religieux dans les choses de Dieu. Il faut bien vérifier. Lorsque le monsieur de Gadara a été libéré, il est resté auprès de Jésus. Celui qui avait 5000 démons, il est resté auprès de Jésus, il ne voulait plus le quitter. Lorsque le voleur à la croix a senti ses péchés pardonnés, effacés, il a dit, Jésus, je ne veux plus te quitter. Prends-moi quand tu viendras. Voilà. Et quand tu fais les choses par forcing, est-ce que tes péchés ont été vraiment effacés? Il a dit, mais oui, mais qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut avoir un cœur humble, qui reconnaît que tu ne peux pas te sauver par toi-même. Ce ne sont pas tes bons actes qui peuvent te sauver, ni des sacrifices quelconques, mais accepte gratuitement d'être sauvé par le sang de Jésus. Accepte le pardon gratuit et sois dans la joie. C'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Bien-aimé, nous sommes en déficit de serviteurs et d'ouvriers, parce que beaucoup n'ont pas accepté le pardon gratuit par le sang de Jésus, tout simplement. Ça paraît très facile, mais oui, l'homme n'aime pas la facilité. Il veut produire lui-même quelque chose. Les péchés sont effacés. Vous savez, quand on a conscience de ça, on peut aller n'importe où. On n'a plus peur des péchés. Vous savez, je vous raconte souvent les missionnaires qui sont partis même chez les tribus de coupeurs de têtes. Mais parce que c'est des frères et sœurs qui avaient compris que Jésus a vraiment pris tous les péchés à la croix, même les péchés des coupeurs de tête. Et vous savez que dans toutes ces tribus-là, ils attendent que nous. Ils attendaient parce que la plupart ont été visités par des frères et sœurs. Mais aujourd'hui, dans l'humanité, les gens nous attendent, nous, pour leur dire, mais nous avons la solution. Parce que ce qui te perturbe, ce qui te pousse à la cocaïne, ce qui te pousse à vouloir l'argent, c'est que tu n'es pas en paix avec Dieu. Dieu peut effacer tes péchés. Vous savez, certains même ne se convertissent pas parce qu'ils ont peur de retomber plus tard. Ils ont peur toujours du péché. Le péché crée la peur. Tu as peur de tomber, alors tu restes dans le péché. Tu n'oses pas accepter le pardon de Dieu parce que tu te dis, mais je vais. Mais on te dit, mais non. Quand il te pardonne, il règle la question. Et si encore une chute, il y a toujours son sang qui est valable pour effacer tes péchés. De sorte que tu es tout le temps, tu peux être tout le temps libéré pour servir Dieu dans la pureté. C'est ça la réalité. Et vous savez, dans ces tribus-là, la plupart de ces tribus, quand les missionnaires sont arrivés, les gens, quand ils ont compris l'évangile, ils ont dit, mais c'est vous que nous attendions depuis longtemps. Parce que ces tribus-là ont des légendes qui leur disent que, à cause de leur péché, Dieu les a quittés et il ne viendra plus. Parce que les êtres humains cherchent des explications à tout. Mais comment expliquer que dans toutes les tribus du monde, il y a ces légendes-là qui disent qu'autrefois Dieu était bien avec nous, après il nous a quittés, c'est pourquoi tous les problèmes nous arrivent. Dans toutes les tribus, il y a cette légende-là. Mais il n'y a pas l'histoire du Sauveur. C'est là que maintenant les évangélistes arrivent pour dire, les chrétiens arrivent pour dire, ben voilà. Vous avez l'histoire de la chute dans vos légendes. Vous avez l'histoire de la séparation avec Dieu. Nous vous amenons l'histoire de la réconciliation avec Dieu par le sang de son propre Fils. Gloire à Dieu! Et vous voyez des tribus de coupeurs de tête se transformer en tribus d'agneaux par l'histoire de la réconciliation avec le Fils de Dieu, et ce, gratuitement. Bien-aimés, entrons dans cette délivrance, dans ce pardon, dans cet effacement de péché, et nous serons renouvelés, et nous n'aurons peur de personne. Parce que nous savons que tout ce qui, même cette peur-là, c'est le péché en nous qui cherche à nous faire peur, on s'est capable de s'effacer. Les gens ont peur parfois qu'on leur dise, mais toi-même tu n'es pas parfait. Oui, c'est pourquoi justement j'ai cru en Dieu, parce que il peut effacer, Jésus peut effacer mes péchés. Seigneur, merci pour le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché et qui ôte le poids du péché en même temps, de sorte que nous soyons libres, libres pour te servir, de sorte que nous soyons attirés désormais par toi et non plus par le monde et non plus par la religion, non plus par les œuvres, mais par toi, Jésus. De sorte que nos vies te soient consacrées pleinement, car libérées de tout poids qui nous séparait de toi. Merci Seigneur. Je viens prier en même temps pour la guérison physique. Ô Père, je chasse la maladie parce qu'elle vient du péché. Je refuse cela dans le corps des uns et des autres, ici et ailleurs, au nom de Jésus, le péché vaincu par Jésus à la croix. Merci pour ta gloire au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci pour une nouvelle vie que tu crées dans le cœur des uns et des autres. À toi la gloire pour la guérison au siècle des siècles. Amen.